France Inter, franceinter.com.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, donc l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer en rond et de penser aussi parfois un petit peu en rond, avec aujourd'hui Céline Bonhomme et Claudine Lapersonne à la technique, et assistée de Sophie Ledoré, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Justement avec Jean-Christophe Pinaza, bah on s'est dit tiens allez on va fêter gentiment l'ami Darwin. On commence donc par souhaiter un joyeux anniversaire à notre cher Charles, avec qui on aurait volontiers soufflé ses 200 bougies jeudi prochain. Darwin, alors rappelez-vous, c'est ce naturaliste anglais qui fait le tour du monde à 22 ans, en prenant très peu l'avion d'ailleurs, faut le dire. Observateur impénitent et méticuleux, 5 années sur les mers du globe, a récolté des indices pour sa grande enquête sur la variété des espèces. Alors on laisse mijoter le tout une bonne vingtaine d'années et puis le verdict tombe, blong ! Nous autres, les êtres humains, nous avons un ancêtre commun avec le ver de terre, mais si, vive les lombrics ! L'histoire du monde vivant, au bout du compte, n'est qu'une longue évolution, des bactéries des océans aux mammifères terrestres et aux pinsons des Galapagos. Avec, à la clé, la sélection naturelle. Cette série de mutations aléatoires et de travaux pratiques qui ont sélectionné au fil des millénaires les meilleurs d'entre nous. Et le grand gagnant de l'Astérac des espèces est, l'homme moderne, celui qui invente la roue, la machine à vapeur, les réacteurs nucléaires de troisième génération, autrement dit les EPR, qui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, poussent comme des champignons ces temps-ci. On imagine déjà la prochaine campagne de promotion, quand le nucléaire va, tout va, avec EDF, GDF, Suez, Areva, et bientôt, bien sûr, Bouygues est dans le coup, bientôt un EPR en construction près de chez vous. Je crois qu'il y en a même qui vont regretter les fermes éoliennes. Oui, ceux qui se baillardent, qui n'en veulent pas du tout. Vous allez voir. Bref, aujourd'hui, Homo sapiens, ce petit prodige de l'évolution qui nous fait l'ascension du Mont Ventoux à bicyclette à 22 km/h de moyenne et qui vole jusqu'à la Lune, il n'a pas encore pris la mesure des responsabilités qui vont avec la fonction d'espèce dominante. Et non, une fonction qui requiert du titulaire d'éviter par exemple de provoquer la sixième grande extinction des espèces ou bien un bouleversement climatique comme on en a rarement connu sur Terre. Que penserait de tout cela l'ami Darwin, hein, lui qui consignait dans ses cahiers les millions d'années de l'histoire de la vie sur Terre? Il serait sans doute surpris de voir nos capitaines d'industrie et nos hommes politiques naviguer avec pour horizon les objectifs trimestriels de la finance moderne. Allez, c'est comme ça. Objectifs en général incompatibles avec le temps de la réflexion, comme on l'a vu encore cette semaine, avec l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, qui ordonne le démontage d'une antenne relais de téléphonie mobile près de Lyon, au nom du principe de précaution, un principe inutile, à l'époque de Darwin, lui qui n'avait même pas de téléphone portable, cet idiot. Voilà. Bref, l'adaptation au milieu, la symbiose, les grands classiques de l'évolution, vous m'oubliez tout ça. 200 ans après Darwin, le bon vouloir du hasard et de la nécessité, on ne va pas pouvoir attendre. Il y a comme une petite crise comme ça, écologique, qui se profile à l'horizon. Alors, sélection naturelle ou pas, il se pourrait bien que Homo consommait toujours plus et fait son temps. Alors je vous pose la question, chers amis auditeurs, vous n'auriez pas un nom pour son remplaçant? Dans quelques instants, donc, une nouvelle histoire tirée de la raison du plus faible. Et là aussi, on sera évidemment avec Darwin en toile de fond, avec Jean-Marie Pelt. Et puis, je vous montrerai comment se chauffer à la brebis. Oui, alors non, on ne va pas mettre des brebis dans un four quelconque. Pas du tout, ce n'est pas ça l'idée. Non, vous allez voir, on va aller sur le Causse, sur une petite commune du Gard, à Campestre-et-Luc. Et puis surtout, ce sera le moment de faire le point avec Yvan Saint-Jour, rédacteur en chef de la Maison écologique, sur les pompes à chaleur. Donc les pompes à chaleur, il y a eu beaucoup de choses qui ont été racontées dessus. Ce n'est pas du tout un truc forcément écolo, on est bien d'accord tout de suite. Mais vous allez voir, quand même, beaucoup d'entre vous se sont installés, ou bien veulent s'installer avec une pompe à chaleur. On fera donc le point. Et puis, l'actualité, ce sera avec Arnaud Gossement de France Nature Environnement. On reviendra sur les antennes relais, on reviendra aussi sur le plan de relance et environnement, et on parlera du mercure, ce qui nous fait quand même un magazine, je le pense, assez diversifié. Et vous aimez la musique? Eh bien, nous aussi sur France Inter. Vas-y, mon petit Thomas, vas-y, chante.
Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la Loire, quand t'es pas là,
je suis comme ça, comme un Rasta sans pétard, comme un Corse sans pétard, et une Normande sans armoire. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, mythique, pornographique, et je suis comme un con. Je suis un faune, j'ai plus de neurones, je tombe de mon trône. Quand t'es pas là, je n'existe pas, comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa houppe, comme un mandat sans sa coupe. Sans olive, une page de pub sans lessive. Si t'es pas là, je ne suis plus moi. Comme un arbre sans racines, comme le théâtre sans racines, sur cette plage sans aline. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, Rolex, Viagra, tout ça, et je suis comme un con. J'ai 18 montres, je me rends plus compte, la bébête qui monte. Quand t'es pas là, je n'existe pas, comme un martien sans soucoupe, comme un coiffeur sans un scoop, comme un pâté sans sa croûte. Et je suis comme un con. Je suis un faune, j'ai plus de neurones, je tombe dans mon trône. Quand t'es pas là, je n'existe pas, comme un manouche sans guitare, comme un château sans la Loire, une Normande sans armoire.
Ah, encore des arbres, quelques frondaisons, c'est formidable. Jean-Marie est là. Jean-Marie Pelle, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Vous avez raconté une très très jolie fable, parce que c'est vrai que départager le fort et le faible, c'est pas toujours très très simple. On le sait, on le voit d'ailleurs aussi dans votre ouvrage, donc La raison du plus faible. Et lorsqu'il s'agit du palmier et du bambou, ben c'est même peut-être impossible. Allez, on y va et nous partons donc sur ces arbres.
Oui, on va imaginer un très très beau palmier, un très grand palmier qui mesure 50-60 mètres en Indonésie, qui est fort, hein, 60 mètres, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est une drôle de plante. Ce palmier, il a un bourgeon à l'extrémité du stipe, du tronc. Ça s'appelle un stipe chez les palmiers, mais c'est tronc. Il y a un bourgeon. Le bourgeon donne des feuilles. L'année suivante, le bourgeon monte d'un cran, il donne de nouveau des feuilles. Les feuilles en dessous, elles tombent, si bien que ça c'est tout nu. Vous savez comme c'est un palmier, hein, c'est tout nu. Et puis ça marche comme ça, d'année en année. Un bourgeon, des feuilles, un bourgeon, des feuilles. Alors on se dit, merde, il fait pas de fleurs. C'est très inquiétant. Ce qui est encore bien plus inquiétant, c'est que si un ouragan, le bourgeon, pouf, il est balancé, il reste plus que le tronc. Il reste plus rien du tout. Alors voilà un palmier extrêmement imprudent, car il y a des tornades, des tempêtes, des cyclones. Eh bien, la plupart, ils se font décapiter avant d'avoir la bonne idée de faire des fleurs. Et puis, s'ils étaient raisonnables, ils feraient plusieurs bourgeons, au lieu d'en faire qu'un. Mais le bourgeon terminal, il ne permet pas à des bourgeons latéraux d'apparaître. Il est totalitaire. C'est un arbre totalitaire. Un bourgeon. Oui. Je ne veux voir qu'une seule tête. Alors, si la tête tombe, c'est la décollation du chef, n'est-ce pas ? C'est ça. Et alors, il n'y a plus que le stipe, il y a le tronc qui est là tout nu et stupide, et puis ça n'a rien donné du tout. Et entre-temps, il n'a pas donné de fleurs, puisqu'il ne fait pas de fleurs. Donc, il n'a pas de descendance. Donc, ce fort que vous voyez magnifique, il est très fragile. Oui. Et puis, tout d'un coup, alors, au bout de 60 ans, il fait plein de fleurs. Alors là, il déborde de fleurs. Il fait des quantités énormes de fleurs. Et puis, ces fleurs, elles tombent par terre. Et ça fait une masse, en quelque sorte, sur le sol de 2-3 cm. Oui, mais seulement voilà les graines. À ce moment-là, la plupart des graines ne veulent pas germer. Alors, il a fait un bel effort, mais beaucoup de graines ne germent pas. Alors, on va dire, mais ça ne fait rien, il va se rattraper l'année suivante, parce qu'il va faire des fleurs maintenant, peut-être.
Non,
pas du tout.
C'est une fois tous les
60 ans. Une seule fois, et il meurt.
Ah bah, 60 quand ans,
il,
et hop, ça y est.
Quand il a fait ses fleurs, il meurt. Il meurt en couche. Il fait son bébé, il meurt en couche. Donc, vous voyez ici un arbre qui paraît très, très brillant, hein, très fragile en réalité, très fragile. Et les bambous, ben les bambous, ça marche de la même manière. Les bambous, ce sont des grandes herbes. Ce sont les seules plantes qu'on peut voir pousser quand on regarde bien, parce qu'elles peuvent pousser d'un mètre par jour. Quand on regarde la pendule de Big Bang, on voit l'aiguille bouger. Là, on voit
le
aussi
bambou, c'est pareil.
Le bambou bouger. Alors, ces bambous...
Ils ne vous donnent pas l'heure, c'est tout.
Ces bambous, ils ne font pas de fleurs non plus. On a suivi depuis l'année 999, on a suivi un bambou chinois. Ah, on a vu qu'il avait refleuri en 1129. Puis, en 2149.
Oui.
Régulièrement, tous les 120 ans. Il ne fleurit que tous les 120 ans. Et jamais entre. Et si on le déterre et qu'on va le mettre à quelque part et qu'on va mettre des graines dans tel pays, dans tel autre pays, dans tel pays, tous les 120 ans, il fleurit. Dans le monde entier, en même temps. Et dès qu'il a fleuri, il crève.
Et ça, c'est incroyable. Cette espèce d'horloge, effectivement, ils fleurissent en même temps.
Dans le monde entier. C'est un phénomène extrêmement curieux, à vrai dire qu'on n'a pas expliqué, mais on a quand même remarqué que ces bambous ne poussent pas à l'équateur, où les jours et les nuits sont de taille égale et il n'y a pas de saison. Ah. Donc, il lit ou la longueur des jours et des nuits, ou les saisons. Il est donc rythmé par l'astronomie. Il est rythmé par les rythmes solaires qui, à l'équateur, n'existent pas. Alors, ces bambous... Bon, évidemment, il y a des petites bêtes qui se nourrissent des graines de bambou. Seulement, il faut qu'ils attendent 120 ans. Alors, on a dit que c'était un avantage pour le bambou. Comme ça, il ne se faisait pas des vents entre-temps. Mais ça, c'est les darwiniens purs. Ils cherchent des explications extraordinaires. Alors, ils disent encore autre chose. Comme tous les 120 ans, ils font beaucoup de graines. Alors, ils disent, ça, c'est pour décourager le prédateur. Parce que quand il voit tellement de graines, il en mange seulement un petit peu parce que ça le dégoûte très vite. Il ne les mange pas toutes. Et donc, le bambou peut voir ses graines germer abondamment parce que le prédateur, il est saturé.
Oui.
Ça s'appelle la règle de saturation du prédateur. C'est les vrais darwiniens. Pur et dur.
Oui.
Chimiquement pur. Nous sommes l'année Darwin, n'est-ce
Bien
pas
sûr.
Moi aussi, je suis darwinien, mais je ne suis pas chimiquement pur. Voilà. Alors, à côté de ces plantes, qui sont quand même très fragiles, qui se renouvellent pas beaucoup, qui meurent en couche, qui font rarement des bébés, qui peuvent être décapités par un ouragan, il y a les pissenlits.
Oui.
Alors ça, c'est des plantes extraordinaires. Alors les pissenlits, d'abord, personne n'a jamais pu se débarrasser d'un pissenlit.
Non, mais les bambous non plus, c'est pas facile, hein, toujours les bambous, hein, faut dire que oui.
Si vous avez des pissenlits dans votre jardin, oui. Vous ne pouvez pas les enlever. Parce que si vous enlevez, il revient. Il revient toujours. Il a une énergie, le pissenlit. Puis il fait des fleurs super.
Au printemps, il fait des salades de pissenlits.
Oui.
Hein, en ces temps,
les belles fleurs jaunes. Oui. Et puis il y a plein de bourdons sur les fleurs jaunes qui butinent. Il s'en fout, parce qu'il n'a pas besoin. Il fait de la parthénogenèse. C'est comme la Sainte Vierge.
Ah, c'est ça.
Eh bien oui, il y a une cellule qui donne un embryon. Il n'y a pas besoin de fécondation, il n'y a pas besoin de pollen, il n'y a pas besoin d'ovule. Le pissenlit se débrouille tout seul, de génération en génération, avec une vigueur extraordinaire. On considère que c'est sûrement une des plantes les plus fortes,
d'accord.
Mais petites.
Voilà, une fois de plus.
Oui. L'immense Corypha, c'est le nom du palmier, est faible. Et le petit pissenlit est terriblement costaud. Et puis en plus, il fait ses magnifiques fruits. Vous savez, on souffle dessus. C'est la librairie Larousse.
Oui.
On voit les akènes plumeux qui s'en vont dans tous les sens. Donc il est merveilleusement disséminé par le vent. Ses graines se propagent rapidement. Les pissenlits, il y en a partout. Personne jamais pourra supprimer les pissenlits. Même pas... Je crois que même le Roundup finirait par se casser la gueule sur les bisons.
Et bien voilà, donc effectivement, c'est quand même des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, cher Jean-Marie. Donc on va toujours méditer hein, sur ce thème-là, entre les plus forts et les plus faibles. La raison du plus faible chez Fayard. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, Jean-Marie.
Au revoir, Denis. Au revoir à tous. Give chance to the man. Give chance to the man. Back.
the motherland. Let's get together. Groove to the rock and music. Brand new day is coming. Sharp, clear and bright. Brand new day is coming. Sharp, clear and bright. Break away, chant, lose this bounce out from our heart. The weather's prepared for us, lady. Within, in the darkness of our soul, we see the light. Stillness we search, in quietness we pray. In righteousness we shall live. All what we need is love. Give love as much we can.
Voilà, choisi par Emmanuel Chupin, donc des gens qui viennent de la République démocratique du Congo. Oui, 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 donc un tout nouveau jour est en train d'arriver. C'était So Calm Mary, donc sur France Inter, dans C'est haut de mon amour. Et quand vous avez un peu froid, oui, vous n'allez pas me dire, ah, si, vous êtes bien couvert, bah tant mieux. On va pas parler de pompe à chaleur, on va parler de pompe à chaleur avec un homme qui s'appelle Yvan Saint-Jour, qui est le rédacteur en chef de la Maison écologique. Donc un excellent mensuel, vraiment, si vous devez rénover, si vous devez changer de maison, etc. Faut vraiment lire ce mensuel. Et donc, dans le numéro de mars 2008, eh bien, il y avait un numéro sur la pompe à chaleur. Yvan Saint-Jour, bonjour.
Bonjour Denis.
Alors, je parle de ces pompes à chaleur parce qu'on a reçu quand même beaucoup, beaucoup de courriels dans cette émission, de coups de téléphone, pour nous dire alors à la fois du bien, nous dire on s'est fait arnaquer. Et donc, on voit bien les chiffres. En 2006, 60 000 pompes ont été installées, quelles que soient, je dirais, les manières de faire. Donc, c'est une industrie qui se porte bien. Il y a eu une énorme communication autour du respect de l'environnement et des économies d'énergie. Alors là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord. On va quand même rappeler qu'on n'est pas dans le monde des énergies renouvelables comme le solaire et le petit éolien, hein, quand même.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, la pompe à chaleur, c'est avant tout un chauffage électrique. Alors, on va le voir par la suite, un chauffage électrique qui peut être assez intéressant ou qui peut être, ni plus ni moins, un chauffage électrique d'un nouveau genre, c'est-à-dire pas très, très intéressant.
D'accord, donc on va essayer de démêler tout ça. D'abord, toutes les pompes à chaleur ne se ressemblent pas. Comment ça marche ?
Alors, une petite pompe à chaleur, comment ça marche? Alors, on parle bien de pompe à chaleur parce que souvent, on va juste faire un petit peu de sémantique, les gens disent géothermie, et la géothermie, c'est une partie de la pompe à chaleur, on va le voir. Donc, la pompe à chaleur, elle va capter ses calories à l'extérieur, dans ce qu'on appelle dans le jargon la source froide, et puis l'amener à l'intérieur, dans la source chaude. Et la source chaude, ça va être radiateur, plancher chauffant ou un ballon d'eau chaude sanitaire quand c'est pour chauffer l'eau chaude sanitaire. Au milieu, il y a cette fameuse pompe à chaleur, et elle, c'est en fait comme un réfrigérateur, grosso modo, avec un compresseur à l'intérieur, il y a un fluide qui s'évapore, qui se retransforme en liquide, et le tout ben, nous crée de la chaleur. C'est merveilleux.
Alors donc, elle puise en fait cette énergie dans les sources naturelles, c'est-à-dire l'eau, la terre et l'air, et donc la machine, le compresseur, va comprimer la chaleur pour atteindre une température supérieure, c'est ça?
Voilà, va comprimer le fluide qui va, le fluide frigorigène qui passe à l'intérieur des tubes qui sont eux dehors, ou alors bien sûr quand c'est sur l'air extrait, et ensuite le compresseur va le passer dans le condenseur lui va prélever la chaleur sur le fluide qui aura été qui sera passé de l'état gazeux à l'état liquide, et puis c'est là qu'on va pouvoir retirer de la chaleur. Après, on passe par un petit détendeur pour remettre l'ensemble dans l'évaporateur.
Parce qu'on a une loi physique qui est toute simple, c'est quand on comprime un gaz à une température donnée, bah, sa température augmente.
Hein. Voilà, exactement. Voilà.
Alors maintenant, on va parler des différentes pompes qui existent.
Alors, les différentes pompes, donc, il faut voir deux grosses familles, les pompes géothermales et les pompes aérothermiques. Alors, les pompes géothermales, on a des pompes qui sont avec des capteurs verticaux. Donc là, c'est en fait le NEC plus ultra. Malheureusement, c'est bien sûr le plus cher. Et là, on va tout simplement faire un forage pour aller assez profond. On peut descendre jusqu'à 100 mètres pour prélever ces fameuses calories.
Oui, oui, c'est-à-dire que quand on manque de place, c'est tout à fait possible de le faire.
C'est l'idéal, ouais, c'est l'idéal, ça. Voilà. Ensuite, on a le capteur sur nappe. Le capteur sur nappe, c'est le même principe, mais au lieu d'aller faire un forage, on va décaisser sur 100, 150, 200 mètres carrés du jardin. On va faire courir le circuit dans le sol, recouvrir, et ensuite, on a notre capteur sur nappe.
Alors, il faut préciser qu'il ne faut pas trop de pente, on ne pourra pas faire de plantation dessus, et puis la surface est quand même assez importante. Hein. Moi, je le voyais dans la maison écologique, ça va de une fois et demie à deux fois la surface donc qui est à chauffer.
Oui, voilà, c'est ça. Mais après, ça va dépendre des machines installées. Hein. Donc on peut jamais donner un ordre de grandeur idéal. Oui. Ça va dépendre, c'est vraiment au cas par cas.
Alors il y a aussi les captages aquifères. Donc qu'est-ce que l'on fait avec l'eau?
Avec l'eau, là, on prélève les calories de l'eau, voilà, qui sont stables à une certaine profondeur, et ensuite on va les remettre avec toujours notre système de détendeur, on va les remettre à l'intérieur.
Mais donc on a un forage qui peut être important, il faut avoir une autorisation aussi.
Oui, alors non, ça c'est uniquement pour le captage vertical, donc cela il faut une autorisation du BRGM, le fameux Bureau des ressources géologiques et minières. Le capteur en nappe phréatique, lui, on a aussi des demandes, mais c'est beaucoup plus simple, on va dire.
Et puis alors, on a ce qu'on appelle l'aérothermie. Donc là, on se sert de l'air. Et c'est là que c'est évidemment assez contestable.
Voilà. Alors l'aérothermie, ici, on a un captage qui se fait sur l'air direct et ensuite qui va rentrer à l'intérieur de la maison avec un circuit hydraulique qui va être soit un plancher chauffant, soit les radiateurs. Là, c'est beaucoup plus contestable parce qu'effectivement, l'air est beaucoup moins stable que le sol ou que la température de l'eau quand on est en captage souterrain.
Moi, j'avais noté que, en fait, il faut savoir que l'efficacité d'un système est inversement proportionnelle à la disponibilité de la ressource. C'est-à-dire que plus la source est proche, donc l'air par exemple, moins il faut s'attendre à avoir un bon rendement. Hein.
Voilà, c'est ça. Surtout que dès qu'on commence à chuter en dessous de zéro, le capteur à l'extérieur va pouvoir se geler un petit peu. Il va falloir donc mettre en place un dégivrage. Ce dégivrage va consommer de l'électricité, donc faire perdre un petit peu l'efficacité énergétique du captage. Là, on est vraiment sur quelque chose de très très limite. Ce qu'il faut savoir, c'est que les capteurs RR, donc on a sur l'aérothermie, on a les capteurs RR et les capteurs RO. Sur l'RR, c'est fini, on n'a plus aucun crédit d'impôt possible à partir du 1er janvier. Ce qui est un bon signe parce que justement, ce sont les plus mauvais. Et comme par hasard, bien sûr, ce sont très souvent les plus vendus.
Alors, Yvan, moi, ce que je vais proposer, c'est maintenant de vous chauffer donc à la brebis, comme je le disais tout à l'heure, donc dans le sommaire de cette émission. Oui, ça peut paraître c'est tout à fait surprenant. Nous allons aller dans le département du Gard. On a quitté le Larzac. On arrive sur le Causse de Campestre en direction du Vigan. Et là, on va rencontrer donc Jean-Marie Brunel, qui est un homme qui est complètement authentique, qui n'a pas de posture. Et vous allez voir donc la relation entre la brebis, le chauffage et Jean-Marie Brunel. Ah, bon, on arrive directement dans une bergerie et nous sommes dans une commune qui s'appelle Campestre et Luc. Nous sommes accueillis par son premier magistrat, Jean-Marie Brunel, bonjour.
Bonjour.
Alors nous sommes à peu près à 750 mètres d'altitude et si on rentre dans votre bergerie, c'est parce que vous avez eu simplement une idée. Vous vous êtes dit, bah, il fait bon dans une bergerie, puis il fait bon évidemment en été et aussi en hiver. Alors c'était quoi l'idée?
Surtout en hiver, oui. Parce que l'hiver, quand il fait moins 10 ou moins 15 dehors, qu'on rentre là, qu'il fait 20. Et mon idée, c'était que bon, pour cette chaleur, il faudrait essayer de la profiter.
De la récupérer,
de la récupérer pour chauffer la maison. Et j'en parlais aux installateurs chauffagistes du coin. Et ils me disaient toujours, attendez, on va se renseigner, on vous rappellera. Et jamais personne ne me rappelait pas.
Ouais.
Et au bout d'un certain temps, j'ai trouvé un frigoriste.
Ouais.
Mais son fils s'installe avec lui, là, et il s'est lancé un peu dans les pompes à chaleur et tout ça. Il m'a dit, j'ai trouvé une marque de pompe à chaleur.
Ça fait quand même combien, là? Là, on va expliquer.
La bergerie, elle fait 36 mètres de long par 16 de large. Les brebis laitières, elles restent de décembre jusqu'à 15 avril, sans sortir. Alors, elles font de la chaleur.
L'idée, Jean-Marie Brunel, donc, c'est de se dire, le surplus de chaleur va servir donc, pour l'habitation principale?
Oui, oui. Et donc, les deux maisons, la mienne et celle de mes parents.
Donc, vous utilisez un peu indirectement la chaleur animale, quoi.
Oui, oui, la chaleur animale.
Alors comment on fait? Là, on va les voir, là, je ne sais pas comment ça se
fait. Vous voyez dessous, là, on va le fumier, mais on a légèrement creusé une dizaine de centimètres, hein, le sol, parce que c'était la terre battue. Hein.
Là où sont les bêtes, donc vous avez creusé sur 10 centimètres à peu près.
On a mis du sable,
oui.
On a mis 1,3 km de tuyaux, et on a fait une dalle en béton de 8-10 cm.
Okay.
Et pour pas trop profond, pour ne pas perdre la chaleur de la bergerie, le fumier quand il fermente. Tout. Et là, ça va une pompe à chaleur qui est...
Qui après redistribue.
Ouais. Et là, on a l'eau qui arrive à la pompe à chaleur, à peu près à une moyenne de 15 degrés.
On a bien compris qu'avec les serpentins qui circulent tout au long de la bergerie, à 10 cm en profondeur, donc chauffés par la chaleur naturelle des animaux, donc les serpentins prennent, on va dire, vont être sur une moyenne de 15 degrés.
Hein. Oui.
Bon. Et après, le fait que l'eau puisse sortir plus chaude, elle va sortir à combien? 50-60?
50-60, oui.
Ouais.
Bon,
ça, c'est le travail de la pompe?
C'est le travail de la pompe. Et c'est le travail de la pompe qui, parce qu'on est équipé à un radiateur. La maison est équipée à un radiateur.
Cette affaire-là couvre à la fois le chauffage... Et une partie de l'eau chaude
ou... Oui, dans la partie de l'eau chaude, parce qu'on a l'installation, nous, l'ancienne installation avec une chaudière à bois. Il y avait un ballon d'eau chaude dessus, et on s'est branché dessus quand on a réchangé l'installation.
Oui, donc vous êtes à peu près autonome en énergie. Enfin, bien sûr, il faut l'électricité quand même pour faire tourner la pompe à chaleur.
Pour être autonome, j'ai fait faire des devis pour faire du photovoltaïque quand même.
Ah oui, c'était... Alors, sur le toit du hangar?
Dans la maison, dans la maison.
Alors sinon, cette idée-là, Jean-Marie Brunel, c'est venu comment? C'est parce que, évidemment, on regarde ces notes de chauffage, ça c'est logique, mais...
On n'avait pas trop de notes, mais c'était la tronçonneuse, parce que nous, on va se chauffer au bois.
Oui,
alors on a...
vous, c'est une note d'essence pour la tronçonneuse.
Et le dos et la bender. Alors c'est ça, parce que bon, ça va nous coûter plus cher que ce que ça nous coûtait avant, parce que le bois, ça nous coûtait rien, il fallait le faire.
Oui.
Mais ça ne va pas nous coûter moins cher, mais... Et puis c'est plus régulier. Point de vue de chaleur, dans la maison il y a un thermostat et c'est toujours. Tandis que le bois, c'était pas.
Il faut quand même charger en permanence.
Oui, il faut charger matin et soir, il fallait mettre du bois et il faut le faire. C'est beaucoup plus.
Jean-Marie Brunel, ce qui est intéressant chez vous, c'est que en fait vous vous fichez assez bien, dans le bon sens du terme, des gens qui ne bougent pas. C'est-à-dire que là, cette histoire de géothermie, maintenant, devient quand même assez exemplaire. Vous n'avez absolument pas été suivi par les différents organismes. Et vous avez eu quand même beaucoup de pignatreté, quoi. Vous êtes dit, on va y arriver.
Parce que j'étais sûr que ça, c'était obligé que ça marche. Parce que je voyais la chaleur qu'il faisait là, et j'étais sûr que ça marche. J'étais sûr de moi. Mais il fallait le faire, quoi.
Donc ce que vous avez fait un pari sur l'avenir. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, je vais me ménager, hein, j'ai 51 ans. Ouais. Et quand j'en aurai 70-75, je ne serai pas forcément heureux de couper du bois.
C'est ce que j'ai.
Bon, est-ce que vous allez faire des petits, des émules? Il y a des collègues là, qui s'intéressent à ça maintenant
Je pense que celui qui me l'a installé, il va s'en charger.
Il va s'en charger. Voilà. Merci à vous, Jean-Marie, et puis bonne suite.
Oui, bon, mais merci à vous, Denis, et bonne balade sur le coursier campestre.
Et puis on salue vos brebis. Hein. Des brebis de la Cône, des brebis laitières que vous connaissez, Yvon Saint-Jour. Alors, c'est intéressant ce témoignage, parce que là, effectivement, ça marche. Quoi. Alors, il est opignâtre, hein, cet homme.
Ah oui, tout à fait. Bon, il a mis le paquet, hein, 1,2 ou 1,3 km de tuyaux, c'est sûr que là...
Ah ouais.
Il a mis toutes les chances de son côté.
Alors on va poursuivre donc avec vous ce voyage donc au pays des pompes à chaleur. Mais comme vous souhaitez un peu de soleil, qu'on aime bien ce soleil aussi, bah oui, énergie renouvelable d'aujourd'hui et de demain, vous verrez, voici Théo Soleil, interprété par Daphné.
Sur la plage, en Australie, l'eau, elle est sauvage. Trois libellules font des bulles et glissent sur ta peau. C'est la canicule, mais ta beauté, l'eau, est un effet virtuose. Sur ta beauté, oh, c'est la beauté. Théo, je t'adore, même quand tu dors.
Il vaut mieux pomper, même s'il ne se passe rien, que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. Donc les Shaddock sont les ancêtres de la pompe à chaleur.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Oui, CQFD. Et puis alors maintenant, COP aussi avec vous, donc Yvon Saint-Jour, parce que vous allez nous parler un petit peu de ces garanties. Et donc, il y en a une qui est le coefficient optimum de performance, le COP, Kezako.
Alors, le COP, donc c'est le coefficient de performance de la pompe à chaleur, donc le COP de la PAC. Mmh. Et on parle d'un COP à partir de 3,3. Quand le COP est inférieur à 3,3, ce n'est même pas la peine d'aller vers une pompe à chaleur parce qu'on aura ni plus ni moins un chauffage qu'un chauffage électrique.
Parce qu'on peut se dire que quand même, à la base, ça doit produire plus de kilowattheure thermique qu'on en consomme.
Hein. Voilà, c'est ça. Oui. Or, vu notre système électrique en France, le calcul a été fait donc, en prenant tout simplement l'énergie primaire et pour arriver à l'énergie finale, l'énergie primaire, il nous faut 3,32 kilowattheure d'énergie primaire pour nous fournir 1 kilowattheure d'énergie finale. Donc, on ne peut pas aller en dessous d'un fameux COP de 3,3.
Et pourtant, il y a des machines qui sont vendues avec un COP inférieur.
Il y a eu beaucoup de machines qui ont été vendues avec des COP de 2 ou des COP de 3. Et donc là, on peut parler uniquement de pompes à chaleur qui sont ni plus ni moins des chauffages électriques.
Alors, quels sont les conseils que l'on peut donner lorsqu'on veut se lancer effectivement dans ces pompes à chaleur? Parce qu'on voit bien que c'est quand même pas simple. Il y a une espèce de maquis. Alors, il y a des installateurs qui sont formidables, d'autres ne le sont pas. Quoi. Voilà.
Voilà. Alors, on va dire que notre premier garde-fou, ça va être tout simplement l'éligibilité au crédit d'impôt. Si la PAC, elle est éligible au crédit d'impôt, c'est déjà un très bon signe. Ensuite, on va s'assurer qu'elle est certifiée. Pour qu'elle soit certifiée, elle va être NFPAC. Et là, on va faire appel à un installateur Calipac, qui lui est un installateur qui connaît son métier et qui va savoir faire. On va juste reparler une seconde du COP, de la PAC, parce que pour éviter des petits désagréments, souvent les vendeurs vont nous vendre des PAC avec des COP mirobolants, il suffit de diminuer de 25% le COP qu'a annoncé le vendeur. On a un COP de 4 annoncé par le vendeur, il sera de 3, donc ce n'est pas la peine, on ne va pas installer cette pompe à chaleur.
Et puis il faut quand même rappeler une chose, c'est que tout dépend du lieu aussi où on habite, c'est-à-dire qu'il faut se baser sur ses besoins, on ne va pas mettre n'importe quelle pompe à chaleur partout en France.
C'est sûr que les pompes à chaleur, on va dire que ça devient intéressant, c'est un chauffage qui est très intéressant, un système de chauffage très intéressant, à partir du moment où on consomme déjà peu d'énergie, moins on consommera d'énergie et plus la PAC deviendra intéressante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur des systèmes de PAC qui vont s'installer dans des maisons passives, parce que là, on n'a quasiment plus besoin de systèmes de chauffage. Ah oui. Voilà. Donc quand on n'a plus un petit besoin que de 1500 kWh à la place des 25 000 habituels, et ben là, on peut tout à fait partir sur une PAC. Et puis si on est argenté, et ben on peut mettre des panneaux photovoltaïques qui vont compenser la consommation de cette PAC. Et là, on aura pour le coup du 100% renouvelable.
Donc que l'on comprenne bien, c'est évidemment pas une solution miracle qu'on essaye de vous présenter aujourd'hui, mais juste de faire le point. Et puis il y a quand même ce fameux circuit liquide. Bon, c'est un fluide qui est quand même rarement inoffensif parce que ça fait partie de ces gaz à effet de serre qui peuvent être extrêmement réchauffants aussi. Mm-hmm. Et on sait qu'il y a une moyenne quand même de 5-10% dans les circuits de fuite.
Oui, voilà, c'est ça. Le potentiel de réchauffement du fluide varie de 1300 à 3200 fois le CO2.
Ah oui.
Voilà, celui du CO2. Donc oui. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Donc il faut quand même faire attention. Voilà.
La durée de vie de ces bêtes-là, c'est quoi?
Alors, on estime que la durée de vie d'une PAC sera de au minimum 15 ans quand elle est bien faite et que c'est du bon matériel.
Et quel entretien?
Un entretien assez minime, assez minime justement, donc c'est ça qui est intéressant. Et puis pour ce qui est des capteurs, aussi bien les capteurs qui sont à l'extérieur que les émetteurs, c'est-à-dire le plancher chauffant, les radiateurs, etc., là on est bien sûr sur des durées de vie beaucoup plus importantes, de l'ordre de 50 ans.
Est-ce que c'est plus intéressant sur le neuf ou la rénovation, ou bien est-ce que la rénovation ça peut fonctionner aussi?
Alors ça peut fonctionner en rénovation si on a mis d'abord, avant tout, le paquet sur l'isolation.
Donc c'est vraiment ça, une fois de plus, ça vous le dit très très souvent, mais d'abord privilégier l'isolation.
Voilà, nous c'est ce qu'on avait fait, dans le dossier qu'on avait fait, on avait demandé une étude en ce qu'on appelle en relève de chaudière fuel. Il y avait une maison qui consommait 25 000 kWh par an, on lui dit, ben voilà, on remplace la chaudière fuel par une PAC, ou alors on met l'argent qui a été dépensé par la PAC dans l'isolation. Et au final, si on met l'argent dans l'isolation, on est gagnant.
Alors Yvan, ça va être très difficile de donner des prix en moyenne parce que c'est extrêmement variable.
Oui.
Et donc le retour sur investissement l'est aussi.
Tout à fait. C'est vrai qu'on peut dire que la machine seule coûte aux alentours de 8 à 9 000 euros. Ensuite, installée.
Tout dépend si on fait un forage profond ou non.
Voilà. C'est très très variable. Et puis, tout dépend de sur quelle personne on va tomber. Donc vraiment, se diriger vers les professionnels, les Calipac, qui eux, a priori, sont déjà beaucoup plus fiables que d'autres, qui vendent des packs jusqu'à 25 000 euros, ça c'est déjà vu.
Alors, je peux vous renvoyer donc sur ce numéro de la Maison écologique, ça c'est de mars 2008, vous avez toutes les indications sur le site de CO2 Mon Amour. Et puis, je vous signale que le dernier numéro, donc février-mars 2009, est consacré aux isolants, donc une enquête comparative exclusive sur 100 produits, donc le guide des isolants. Et là, on rejoint, entre autres, notre problème de l'isolation.
Oui, tout à fait.
Merci à vous, cher Yvan, et puis à très bientôt.
Merci, Denis. She's my woman of gold, and she's not very old. Uh-huh. She's my woman of gold, and she's not very old. Uh-huh. I don't mean to be bold, but to me, I hold your hand. But she ain't a witch, and I love the witch twitch. Uh-huh. She ain't a witch and I love the way she twitch, uh-huh. I'm a labor of love in my Persian gloves, uh-huh. Well, she's faster than most and she lives on the coast, uh-huh. Well, she's faster than most and she lives on the coast, uh-huh. Two-penny prince and I give her hot love, uh-huh. Chilliwa.
Et je pense même que la fin, ça va être la, 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 la. Et oui, non, mais c'est drôlement bien. C'était T-Rex Hot Love sur France Inter, toujours dans CO2 Mon Amour. Avec Arnaud Gossement qui est avec nous pour notre partie actualité. Arnaud Gossement, bonjour.
Bonjour Denis.
Alors vous êtes, on va le rappeler, vous êtes à la fois avocat, vous êtes porte-parole de France Nature Environnement, c'est-à-dire la fédération qui regroupe 3000 associations de protection de la nature et dont vous venez régulièrement maintenant dans cette émission donc nous rendre visite pour parler de l'actualité verte, on va dire, et des suites du Grenelle. Et donc moi j'aimerais bien aujourd'hui que l'on parle d'abord de la fameuse relance économique. Bon, lundi dernier, le Premier ministre François Fillon a annoncé donc 1000 chantiers, ça fait joli, 1000, un bon chiffre, pour stimuler la croissance, sans jamais citer le mot d'environnement. Alors, est-ce qu'on est loin du New Deal vert annoncé par Nicolas Sarkozy au lendemain du Grenelle de l'environnement ou pas ? On va se poser des questions. Quoi.
Vous faites bien de rappeler effectivement qu'en octobre 2007, à la sortie du Grenelle de l'environnement, le président de la République nous dit quoi ? Il nous dit « je vais faire le New Deal écologique ».
Ah, il a dit, oui.
Donc là, on y croit, on se dit, il va le faire et tout, c'est super, il s'engage devant tout le monde. Et c'est vrai qu'il a renouvelé cet engagement à plusieurs reprises, notamment en décembre 2008, il n'y a pas très longtemps. Il reçoit les ONG à l'Élysée. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Je vais annoncer un plan de relance, j'aurais commencé à en parler à Douai, et vous allez voir, ce plan de relance, il va être vert. Et d'ailleurs, vous, ONG, je vais vous prendre au pied de la lettre, vous allez me faire des propositions, vous allez les mettre sur la table au mois de janvier, et on va en tenir compte. Alors le problème, évidemment, c'est que lorsqu'on voit sortir le plan Fillon avec le mot environnement qui n'apparaît jamais, on est un petit peu déçu quand même, il faut bien le dire, surtout qu'on n'a pas été reçu comme on le souhaitait auparavant pour faire des propositions, parce qu'on avait des propositions à faire, malheureusement, elles n'ont pas été très entendues. Et qu'est-ce qu'on voit quand on lit les 206 pages du plan de relance?
On voit qu'il y a autant de moyens sur la route que sur le rail.
On a vraiment l'impression que, effectivement, la philosophie des gouvernants n'a pas tellement changé, puisque la bonne vieille recette de faire des routes, ça donne des emplois tout de suite et ça permet de mailler le territoire, est revenue. Surtout qu'en plus, on n'est pas contre le développement des transports, mais il y a quasiment rien sur les transports en agglomération, transports collectifs, etc. Et par contre, la bonne vieille route, la bonne vieille autoroute revient sur le devant de la scène à égalité avec le rail, alors que c'est vrai qu'on doit construire 2000 km de plus de lignes TGV, on doit rénover le réseau ferroviaire, le fret. Grosso modo, là où on est déçu, c'est quoi ? C'est qu'au-delà des montants financiers, auxquels d'ailleurs, entre nous soit dit, on ne comprend pas forcément grand-chose, parce que c'est très technique, c'est qu'il manque un projet politique derrière cette liste-là. C'est-à-dire que pour nous, un vrai plan, c'est un plan qui est adossé sur un projet politique. Et évidemment, pour nous, le projet politique, c'est, rappelez-vous, le New Deal écologique.
Alors, Arnaud, on va dire, est-ce que tout est à jeter ? Est-ce qu'il n'y a aucun espoir ? Enfin, je veux dire, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire que les associations ont fait donc tous ces efforts lors de Grenelle pour trois fois rien ?
Alors non, évidemment, parce que la sinistrose ambiante nous agace autant que certains comportements de gouvernants. En réalité, si on regarde ce plan de relance, il n'est pas totalement acheté. Il y a quand même 200 millions qui sont mis sur le bâtiment. Il y a également des crédits qui sont prévus sur le ferroviaire. D'une manière générale également, on préférait quelque chose qui soit axé sur l'investissement plus que sur le consommer toujours plus. C'est-à-dire où on réduit le citoyen à une sorte de machine à faire ses courses au supermarché.
Vous serez un bon citoyen si vous achetez et si vous consommez.
Voilà. C'est exactement ça. Donc ça, on ne nous l'a pas sorti. Donc quelque part, le pire a été évité. Malgré tout, lorsqu'on regarde dans le détail, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'en fait, c'est les régions qui vont être les premiers acteurs du Grenelle et de cette relance économique. Donc nous, notre espoir, il est sur leur attitude. Parce que quand on regarde le détail des financements, en réalité, l'État, il a un peu les poches vides aujourd'hui. Et il va signer surtout des contrats de plan État-région. Et c'est avec les régions qu'il va faire cette relance économique. Notre but à nous, c'est quoi ? C'est d'aller avec notre maillage d'associations voir les élus locaux en leur disant « Arrêtez avec votre aéroport Notre-Dame-des-Landes, arrêtez avec votre A65, arrêtez avec vos routes nationales partout. » On fait autre chose, on se met autour de la table et on fait le Grenelle en région. C'est ça notre but.
Alors voilà, parce que c'est peut-être ça qui n'a pas été fait. Donc on va dire décentralisation, oui, il faut effectivement que ce Grenelle aille en région. Et c'est parce qu'en fait, ça va donner beaucoup plus de pouvoir aux élus locaux, cette affaire-là.
Exactement. Il faut bien voir qu'en réalité, contrairement à ce qu'on peut avoir comme impression quand on écoute le président de la République, le Premier ministre et même Jean-Louis Borloo ne sont pas des Superman. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous les pouvoirs et ça, on le sent très très fort. L'omniprésidence, c'est un discours, ce n'est pas une réalité. Et nous, notre but, c'est qu'effectivement, en région, les élus locaux changent de philosophie. Puis il y a un dernier point aussi, quand même, pour ne pas verser dans la sinistrose, c'est qu'on va couper une recette très importante pour les régions, la taxe professionnelle. Oui. Donc tout l'enjeu, et vous avez vu qu'il y a déjà des déclarations qui sont en train de se faire dans la presse, c'est de remplacer cette taxe pro par un truc intelligent, la taxe carbone, où on va fiscaliser non plus le travail, mais l'atteinte à l'environnement. Donc là, il y a un espoir quand même qui se lève.
Alors là, vous rejoignez Jean-Marc Jancovici, qui était notre invité la semaine dernière. Donc fondamentalement, pourquoi vous tenez, je dirais, à cette taxe carbone ? On va dire une nouvelle taxe en période de crise. Moi, je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce que les écolos ont envie d'être impopulaires, quoi ?
Alors non, il ne faut surtout pas répéter le psychodrame, vous rappelez, de la taxe pique-nique, où certains ont cru que les écolos allaient empêcher les Français
d'aller faire des pique-niques. Bah oui.
Bah oui, maintenant, on a le droit d'aller faire des pique-niques, il n'y a pas de souci. Non, le but, c'est quoi ? C'est d'éviter la double casse. C'est-à-dire à la fois de répondre à la crise économique et en même temps à la crise écologique, parce que les deux vont de pair. La contribution climat-énergie. C'est quoi la contribution climat-énergie ? C'est le nouveau nom de la taxe carbone. Il ne s'agit pas simplement de taxer les émissions de gaz à effet de serre, mais toutes les atteintes à l'environnement par cette contribution qui, en réalité, doit être neutre pour les citoyens comme vous et moi.
Alors, le but des associations, on le comprend, donc, c'est donc d'éviter la double casse à la fois sociale et environnementale. Et moi, j'aimerais qu'on prenne un exemple concret qui est dans l'actualité, qui est celui du mercure. Donc, on ne va pas parler d'astronomie, de cette planète la plus proche du Soleil. Non, pas du tout. On va parler de la pollution industrielle au mercure. On a beaucoup parlé jeudi du rapport Zéro Mercure, donc publié par France Nature Environnement. Il faut dire que vous y avez été. Alors, de quoi s'agit-il ?
Alors, en fait, il s'agit d'une campagne internationale qui s'appelle Zéro Mercure, qui regroupe un très grand nombre d'ONG. Cette campagne est relayée au niveau européen par le Bureau européen de l'environnement, qui est la plus importante fédération d'associations. Et le Bureau européen de l'environnement suit des négociations qui sont ouvertes en 2001 et qui vont peut-être se conclure le 16 février, donc vraiment dans quelques jours, à Nairobi. Négociations pilotées par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et dans ce cadre-là, nous, on a été chargés en France de faire des campagnes de prélèvement. Alors, on est allé aux abords de certains sites industriels pour voir si dans l'air, on trouvait des concentrations de mercure plus élevées que les normes qui sont notamment fixées par l'Organisation mondiale de la santé. Et qu'est-ce qu'on voit ? Bah oui, on voit qu'effectivement, il y a des dépassements sur certains sites industriels. Et pourquoi est-ce qu'il y a des dépassements ? Parce qu'en réalité, ces sites industriels utilisent des techniques qui sont totalement moyenâgeuses. Et d'ailleurs, il existe des alternatives qui, en plus, consomment 30% d'énergie en moins. C'est-à-dire qu'économiquement, c'est une aberration de garder ce système-là. On demande le changement de ce process et on dénonce le fait que certains industriels ont fait du lobby, non pas pour se mettre aux normes, mais pour obtenir 10 ans de plus pour changer de process. Donc là, on est complètement à l'inverse du New Deal écologique dont on a parlé tout à l'heure. On est vraiment dans les vieilles recettes, les vieilles lunes, les solutions à court terme, et on va direct vers la casse sociale et environnementale en se comportant de cette manière-là.
Alors Arnaud, c'est vrai que là, vous avez fait du foin du côté de l'Isère, donc dans la commune de Jarry, que l'on connaît quand on n'est pas très loin de Grenoble, parce que là, évidemment, vous avez eu vos propres mesures, donc les gens, évidemment, sont un peu inquiets. Alors, le but de France Nature Environnement à travers cette campagne, c'est de vous faire un coup de pub ou bien c'est quoi le cocotier, c'est quoi ?
C'est certainement pas de se faire un coup de pub, malheureusement, c'est le résultat de 2 ans de campagne. Il y a même eu des actions en justice, des dialogues, des réunions proposées, etc. Il faut savoir que notre salarié, lorsqu'il était sur place, il était encore à 300 mètres de l'usine dans le domaine public. Quelle est la réaction de l'exploitant ? Envoyer la gendarmerie. Bon, et en même temps, dans son plan de développement durable, qui est distribué à tous les actionnaires, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Volonté d'écoute, transparence, amélioration continue du process, bref. On a dénoncé un double discours entre les entreprises qui font le jeu du développement durable et celles qui s'en servent uniquement pour faire un coup de pub. Le coup de pub, il est du côté des entreprises qui font uniquement des paroles et jamais des actes. Donc, on a médiatisé parce qu'il n'y avait plus le choix. Et effectivement, cette médiatisation, là, à ce moment-là, a servi à quelque chose.
Alors, quand vous lancez, je dirais, une alerte comme celle-là, est-ce que vous pensez au risque de casse sociale, au fait que vous pouvez couler une boîte, est-ce que ressentiront les salariés
Bah, vous savez, c'est vraiment difficile parce que ce débat, on l'a eu vraiment pendant plusieurs semaines. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est un petit peu trop tendre, on va nous dire du côté des écolos, bah, dis donc, franchement, France Nature Environnement, qu'est-ce que vous faites ?
Vous êtes mou, etc.
Vous êtes mou, ça va pas assez loin. Et puis de l'autre côté, on a aussi les syndicats de salariés qu'on a appris à connaître beaucoup mieux dans le cas du Grenelle de l'environnement qui nous disent, mais vous y avez pensé à l'aspect social, aux plans sociaux, au licenciement, à l'honneur des salariés que vous accusez de contaminer l'environnement ? On a fait vraiment attention à ça et on a dit, attention, on est des lanceurs d'alerte, pas des donneurs de leçons.
Donc, ça a servi à quoi, on va dire ?
Très concrètement, ce que je disais tout à l'heure, on a fait des actions en justice, on est allé au pénal, etc. L'industriel n'a pas bougé. Et là, tous les médias en parlent, c'est passé dans tous les quotidiens, etc. Et qu'est-ce qu'on a au final ? On a enfin une réaction de l'administration, c'est-à-dire du ministre, qui nous dit, avec Chantal Jouanneau, nouvelle secrétaire d'État à l'écologie, on vous reçoit dès la semaine prochaine pour définir une campagne de prélèvement. Enfin, ça fait juste un an qu'on le demande. Et derrière, ce report de 10 ans, on va le remettre en cause, alors qu'il a été décidé en 2007, juste avant Grenelle, on donne 10 ans de plus pour faire n'importe quoi. Et on va le remettre en cause et on va voir comment on peut faire.
Alors, réaction de l'exploitant aussi, campagne de mesures nouvelles, donc ça va être ça ?
Oui, tout à fait. Et au niveau de l'exploitant, c'est vrai qu'il faut le dire les choses. Évidemment, il s'est défendu en disant que les prélèvements, c'était n'importe quoi. Mais grosso modo, on n'a pas vu cette agressivité. Il ne nous a pas envoyé les gendarmes à Paris, en tout cas.
Bon, alors je vous propose de passer à un autre sujet maintenant avec ce petit son.
Dieu6OSAV, bonjour. Si vous désirez des informations sur nos produits, tapez dièse. Si vous désirez régler votre facture en euros, tapez bémol. Si vous désirez entrer en relation avec un de nos techniciens, tapez 27935672435269.
Pour faire danser la danseuse, pour faire percer la perceuse, pour cultiver les salsifis, pour accrocher un crucifix, pour démarrer l'automobile ou un bouquin de Comte Sponville, c'est comme accomplir un exploit. Je ne sais pas lire les modes d'emploi.
Voilà, c'est du bonheur, c'est Juliette. Et donc, ça nous amène à parler de nos fameux mobiles. 56 millions de Français utilisent un portable. Nous en utilisons quand même beaucoup les uns et les autres. Et cette semaine, décision de la Cour d'appel de Versailles de retirer une antenne relais de téléphonie mobile à la demande des riverains. Alors, on y va. Quelques mots quand même là-dessus, parce que là, évidemment, les opérateurs, ils ont la trouille.
Ils ont la trouille, mais il faut peut-être se poser les bonnes questions. C'est vrai que dans ce cas particulier, la Cour d'appel de Versailles a ordonné le retrait d'une antenne de 19 mètres qui émettait, pour un opérateur bien connu, à quelques mètres des habitations. Et pour une fois, les riverains ont été pris au sérieux. Alors pourquoi cette décision est très très importante ? Primo, parce qu'elle applique le principe de précaution. Pourquoi ? Elle dit, Le juge dit, je ne dis pas qu'il y a un risque certain, je ne dis pas qu'on va tous mourir parce qu'on utilise le téléphone portable, heureusement pour moi qui suis d'ailleurs un drogué du portable, mais je vois simplement qu'il y a des débats entre experts, qu'il y a des risques, qu'on s'interroge, et dans ce cadre-là, dans un cadre de controverse scientifique, d'incertitude, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'effectivement les opérateurs téléphoniques, avant de généraliser les antennes relais qui prolifèrent un peu partout, se posent des questions, fassent des études. Et ces études-là, bah, moi juge, je remarque simplement qu'ils ne me les donnent pas, qu'il n'y en a pas assez, et que les riverains, eux, je comprends leur inquiétude, et ce n'est pas simplement des gens qui sont irrationnels. Vous savez, on parle beaucoup de l'effet nocebo, le simple fait de penser qu'une chose est dangereuse fait qu'on tomberait malade. Non, il n'y a pas d'effet nocebo en l'occurrence, il y a simplement des questions qui sont posées, une absence de réponse. C'est ce qu'on appelle le principe d'inversion de la charge de la preuve. Il faut que l'opérateur démontre qu'il fait bien les études scientifiques adéquates.
Merci beaucoup Arnaud Gosselin, et puis bah, vous reviendrez très bientôt dans CO2, mon amour. Un grand merci à Céline Bonhomme, à Claudine Lapersonne à la technique aujourd'hui, à Sophie Ledoré, à Jean-Christophe Pinaza, à Xavier Pestugia qui a réalisé l'émission, Emmanuel Chupin a choisi les disques, et puis c'est Anne Gouzon, notre cyberdocumentaliste qui a nourri les sites de CO2, mon amour. Vous verrez, c'est extrêmement intéressant encore aujourd'hui.